إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous sommes toujours dans cette bataille de Uhud. Et nous avions vu dernièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la désobéissance des archers, s'était réfugié dans le shi'b de Uhud, afin de pouvoir se prémunir de l'assaut des ennemis. Ceux-là même qui voulaient en découdre et en finir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient l'assassiner ou le tuer. Seulement les compagnons se sont mis autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'ont protégé corps et âme. Une question qui se pose durant cette bataille, est-ce que les anges ont combattu avec les croyants durant cette bataille? Nous avons un hadith rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, sous le numéro 4054. Ce hadith nous dit, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, « Qala, ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud » ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه a dit, le jour de Uhud, j'ai vu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accompagné de deux hommes qui combattaient pour lui avec la plus grande vigueur. Ils étaient vêtus de blanc. Je ne les avais pas vus auparavant et ne les revis pas par la suite. Ces deux hommes étaient bien sûr les deux anges d'Ibril ou Mikaël. Seulement, on a un problème ici. Si on dit que les anges sont venus combattre avec les croyants, alors normalement cela aurait dû se terminer par une victoire éclatante des croyants, comme cela fut le cas lors de la bataille de Badr. Lorsque les anges sont descendus assister les croyants, cela est venu sceller le sort des mécréants et confirmer la victoire des musulmans. Or, ce n'est pas le cas ici. Les savants donc ont dit que les deux hommes qui ont combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés étaient spécifiques au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était bien deux anges, mais cela était une assistance spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux croyants, Allah leur avait promis que s'ils faisaient preuve de patience et de piété, en respectant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et que les ennemis fondraient sur eux, alors ils les assisteraient par les anges. Trois conditions sine qua non. Si ces trois conditions sont respectées, dans ce combat ou dans n'importe quel combat, les anges viennent assister les croyants. La patience, la piété, et le fait que les ennemis d'Allah fondent sur eux. Mais comme cela ne s'est pas réalisé dans cette situation, Allah tabaraka wa ta'ala n'a donc pas réalisé cette promesse. En effet, une partie des croyants ont désobéi à Allah et à son messager. Une des conditions n'a pas été respectée. C'est pour cette raison que les anges ne sont pas venus assister les croyants durant cette bataille. Contrairement au cas de la bataille de Badr, où là, les 314 combattants n'ont pas fait défaut, ont fait preuve de patience, ont fait preuve de piété, ont exécuté les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils étaient assaillis de toutes parts. Allah tabarak wa ta'ala a descendu les anges qui venaient combattre à leur côté. Que nous dit Allah à cet effet subhanahu wa ta'ala? Qala Allahu jalla wa ala, إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Sourate numéro 3, les versets 124 et 125. Dans le sens des versets. Allah vous a bien donné la victoire à Badr, lorsque tu disais aux croyants, « Ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges ?»« Oui, cela vous suffit. Si vous êtes endurant, pieux, et que les ennemis fondent sur vous, votre Seigneur vous enverra en renfort 5 000 anges marqués distinctement. » Donc Allah tabaraka wa ta'ala énonce ces trois conditions qui permettent à toute armée, si elles sont remplies, d'être assistée par les anges. Si vous êtes endurant, pieux, et que les ennemis fondent sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala révéla aussi concernant le groupe de croyants à qui il fit descendre un assoupissement et inspira dans leur cœur la tranquillité et la sérénité, ce qui leur permit de reprendre de la vigueur au combat et de défendre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha al-Ansari radiallahu anhu était parmi ceux qui s'assoupirent le jour de Uhud, jusqu'à ce que son épée tomba sans cesse de sa main, puis il la reprenait. Allah dit tabaraka wa ta'ala, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم. Sourate numéro 3, verset 154. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous. C'est-à-dire ce sommeil enveloppa les croyants. Ils s'assoupirent un bref moment, puis lorsqu'ils se réveillèrent, ils reprirent de la vigueur et furent prêts à défendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que mort s'en suive. Quant aux hypocrites qui combattirent aux côtés des croyants, ils ne bénéficièrent pas de ce sommeil réparateur et de cette sérénité dans les cœurs. Allah tabaraka wa ta'ala dans le même verset dit à leur sujet, وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'avait d'objectif que de sauver sa propre peau ou leur propre peau. Et ils avaient des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Les savants expliquent, entre autres, que ces pensées étaient le fait qu'ils disaient ou qu'ils pensaient qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'allait pas secourir son messager et que la défaite du messager sallallahu alayhi wa sallam pointait à l'horizon. Allah continue tabaraka wa ta'ala et dit, il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'il ne te révèle pas, il le cache en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Ils remettent en question ici le destin. On voit ici donc la différence entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Durant la bataille de Badr, il y avait 314 combattants et aucun hypocrite. Tous étaient sincères et tous étaient prêts à sacrifier leur vie pour la cause de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala, en une demi-journée, leur a donné une victoire éclatante. Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Or, dans la bataille de Uhud, les croyants n'étaient plus seuls, il y avait avec eux ceux qui cachaient l'hypocrisie ou qui cachaient la mécréance et qui montraient extérieurement l'islam. Ces gens-là ont été un frein, ont été un rempart, un obstacle dans la victoire des musulmans durant cette bataille. Les polythéistes et les associatres ont déployé tous leurs efforts pour tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'en a protégé. Il a été rapporté que Ubay ibn Khalaf avait promis à la Mecque durant les premiers temps de l'islam, avant l'immigration, qu'un jour il tuerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il le rencontrerait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit alors, « Au contraire, c'est moi qui te tuerai si Allah le veut. » Imaginez-vous cette parole ou cet échange eut lieu des années auparavant alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque. Cet homme, qui ne cachait pas son hostilité envers l'islam et envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui avait dit « Si un jour je te rencontre au Quba, je me chargerai de te tuer. » Et le prophète lui avait répondu « Au contraire, c'est moi qui te tuerai, incha'Allah, si Allah le veut. » Le jour de Uhud, Ubay ibn Khalaf rencontra le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le vallon où s'était retranché le messager sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Il disait « Ô Mohammed, point de salut pour moi si tu t'en sors sain et sauf. Point de salut pour moi si tu t'en sors sain et sauf. » Autrement dit, c'est comme s'il disait qu'il voulait tuer le messager sallallahu alayhi wa sallam et voulait sa tête. Les gens dirent parmi les compagnons, ô messager d'Allah, veux-tu que l'un d'entre nous s'occupe de lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, laissez-le. Lorsque Ubay s'approcha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit la lance d'Al-Harith ibn Simma radiallahu anhu. Il fit face à Ubay et le frappa au cou, ce qui le fit vaciller de son cheval. Ubay retourna vers Quraysh et ne cessait de tomber de son cheval dû à la blessure que lui avait infligée le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En apparence, cela était une simple égratignure. Mais il tenta cependant d'arrêter les saignements. Il dit alors, « Par Allah, Muhammad m'a tué. »« Wallahi qatalani Muhammad. » Alors les siens, parmi Quraysh, le rassurèrent en lui disant qu'il n'avait rien. Mais Ubay leur rappela la parole que lui avait dite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Puis il leur dit cette phrase, « Par Allah, s'il avait craché sur moi, il m'aurait tué. » Wallahi la basaqa aliya la qatalani. Ubay va mourir des suites de cette blessure du côté de Sarif, à quelques kilomètres de la Mecque. Et donc cet événement fait partie des signes et des preuves de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait annoncé des années auparavant qu'il tuerait cet homme. Nombre de savants disent que Ubay ibn Khalaf fut la seule personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tué de ses propres mains. Ce récit est authentique. Hassad ibn Thabit, radiallahu anhu, composa ces quelques vers concernant Ubay. Il dit, « Ala man mublighun anni Ubayya, laqad ulqiyat fi suhqi sa'iri, tamanna bid-dalalati min ba'idin. » وتقسم أن قدرت مع النذور تمنيك الأماني من بعيد وقول الكفر يرجع في غروري فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فجور له فضل على الأحياء طغرى إذا نابت ملمات الأمور. N'y a-t-il personne pour transmettre de ma part à Ubay qu'il a été jeté au plus profond du brasier ardent? Il nourrissait de loin des espoirs fondés sur l'égarement et jurait que j'étais à bout malgré les avertissements. Tes vains souhaits lancés de loin ne sont qu'illusions et la parole de mes créances ne revient qu'en trompant. Or, t'as atteint le coup de lance d'un homme fidèle à son honneur, nullement porté à la débauche, noble de sang, sallallahu alayhi wa sallam. Il détient une supériorité quand surviennent les épreuves et les grands malheurs sur tous les vivants. Lorsque les musulmans se raffermirent prêts à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort, les associatres échouèrent dans leur tentative d'atteindre la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de l'attaquer directement. Abu Sofyan, le chef des Quraïchites, n'eut d'autre choix que de menacer les musulmans d'une nouvelle guerre l'année suivante, ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam accepta. Abu Sofyan cria alors, « Est-ce que Muhammad est parmi les gens, c'est-à-dire parmi les vivants ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, ne lui répondez pas. Puis il demanda, « Est-ce que Ibn Abi Quhafa est parmi vous ?» Ibn Abi Quhafa n'est autre que Abu Bakr. Et le prophète leur dit, ne lui répondez pas. Puis il dit, est-ce que Ibn al-Khattab est parmi vous? Et personne ne répondit. Jusqu'à ce que Abu Sofyan dit alors, ceux-là ont été tués, car s'ils étaient encore vivants, ils auraient répondu. Omar ibn al-Khattab, ne pouvant se retenir, répondit, tu mens, ô ennemi d'Allah. Allah a maintenu vivant ceux qui causeront ta tristesse, à savoir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakrin, ainsi que lui-même Omar. Abu Sofyan, ayant entendu ces paroles de Omar, et sachant que le prophète était encore vivant ainsi que Abu Bakr, a dit, « U'lu ya Hubal, ou U'lu Hubal, élevé soit Hubal. » Hubal, c'est la divinité qui était adorée par les Quraïchites à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, « Répondez-lui. » Ils dirent, « Que doit-on dire au messager d'Allah ?» Il répondit, « Allahu a'la wa ajal. » Allah est plus élevé et plus majestueux. Abu Sofyan dit alors, Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons al-Uzza, qui est une autre divinité adorée par les Quraïchites, alors que vous ne l'avez pas. Le prophète leur dit alors, répondez-lui. Ils dirent, que doit-on dire au messager d'Allah? Il répondit, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre maître et notre soutien, et vous n'avez pas de maître ni soutien. Abu Sofyan dit alors, cette journée est la revanche de Badr. La guerre est une alternance. Puis il ajouta, vous trouverez des mutilations que je n'ai pas ordonnées, mais elles ne me peinent point. Ce hadith et cet échange qui a lieu entre Abu Sofyan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari sous le numéro 4043. Cela marque la fin de cette bataille. Les polythéistes se retirèrent, satisfaits de ce qu'ils avaient obtenu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali ibn Abi Talib pour observer leurs mouvements et voir ce qu'ils préparaient. Et dans la version de Al-Bayhaqi, ce fut Sa'd ibn Abi Waqqas qui fut chargé de cette mission d'espionnage. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils délaissent les chevaux et montent les chameaux, ils retournent à la Mecque. Et s'ils délaissent les chameaux et montent les chevaux, il se dirige alors vers Médine. Ali donc s'enquira des nouvelles des Quraïchites et virent qu'ils montèrent les chameaux pour prendre la route de la Mecque. Ils prirent finalement le chemin de la Mecque. La bataille s'acheva avec 70 martyrs parmi les musulmans, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, et Ibn Ishaq en compte 65, et Ibn Hisham est venu citer les 5 manquants, ce qui fait un total de 70. 70 martyrs pour la bataille de Uhud et 14 martyrs pour la bataille de Badr. Vous voyez qu'ici, les pertes musulmanes sont conséquentes. L'imam al-Waqidi a signalé qu'il y avait eu 74 martyrs parmi les musulmans. Parmi les associates, 22 tués. Les Waqidi en rapportent 27 et Ibn Sa'd en rapporte 23. Bon, quoi qu'il en soit, c'est toujours un nombre inférieur à celui des musulmans. Donc cette bataille, même si elle s'est soldée par un retrait des troupes, n'en demeure pas moins une défaite pour les musulmans. 70 martyrs furent tués parmi eux des plus grands compagnons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commença à marcher sur le champ de bataille en essayant de retrouver les corps des musulmans. Et il trouva Hamza étendu dans la vallée. Son ventre avait été ouvert, son foie arraché, son nez et ses oreilles mutilées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en voyant cela, « Si ce n'était la tristesse que cela causerait à Safiya, qui est la sœur de Hamza et la tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je l'aurais laissé jusqu'à ce qu'Allah le ressuscite depuis le ventre des bêtes et des oiseaux. Si Allah me donne le dessus sur Quraysh dans un combat futur, je mutilerai 30 hommes parmi les leurs. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait du mal à supporter la vue de son oncle mutilé de la sorte. Des musulmans aussi furent profondément attristés lorsqu'ils virent la colère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dirent par Allah, nous exercerons des représailles comme jamais les Arabes n'en ont subi. Cependant, Allah révéla subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. La sourate 16, le verset 126. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa outre, fit preuve de patience et interdit la mutilation afin d'être en conformité avec le verset coranique. Cette narration était rapportée par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak avec une chaîne de transmission authentique et l'authenticité de ce hadith a été confirmée par l'imam al-Dhahabi. Pour les détails de la mort de Hamza, je vous renvoie au cours numéro 85. Nous avions évoqué aussi dans le cours précédent les femmes qui avaient participé à Uhud pour soigner les blessés et autres. Mais il y a aussi le cas des autres femmes restées à Médine qui étaient dans l'attente du retour de leur père, de leur mari, de leur frère ou de leur fils. L'histoire donc a également consigné de sublimes exemples de positions de foi adoptées par ces femmes musulmanes lorsqu'elles furent éprouvées par la perte de leurs proches, tout en se réjouissant de la survie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces exemples figure le cas d'une femme des Banu Dinar, Soumaïra bint Qais, radiallahu anha. Son mari, son frère et son père avaient tous été tués lors de la bataille de Uhud. Lorsqu'on lui annonça cette nouvelle, elle demanda « Qu'en est-il du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Le premier réflexe qu'elle a eu, c'était de s'assurer que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sain et sauf. On lui répondit, il va bien, ô Ummu Fulan, louange à Allah, comme tu l'aimes l'entendre. Elle dit alors, montre-le-moi afin que je le voie. Lorsqu'elle le vit, elle déclara, toute épreuve, après que tu sois sain et sauf, est insignifiante. Toute épreuve. Après que tu sois sain et sauf, c'est-à-dire toute épreuve, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit sain et sauf, est une épreuve insignifiante. Donc la chose qui l'a préoccupé le plus, en deçà de l'état de son père, de son frère, de son mari, était la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette narration a été rapportée par Ibn Ishaq avec une chaîne de transmission qui est bonne. Aussi, Safiya, la sœur de Hamza et la tante maternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, arriva pour voir son frère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à Zubair ibn al-Awwam, qui est le fils de Safiya, de la faire repartir afin qu'elle ne voie pas ce qui avait été fait à son frère comme mutilation. Elle dit alors, et pourquoi ? J'ai déjà appris ce qui lui est arrivé. Je sais qu'il a été mutilé. Mais cela est survenu pour la cause d'Allah, et nous acceptons ce qu'Allah a décrété. Nous patienterons et espérerons la récompense d'Allah si Allah le veut. Lorsque Zubair informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses paroles, le prophète lui ordonna de la laisser passer. Elle s'approcha alors de Hamza, pria sur lui, prononça la formule de Al-Istirjar, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous reviendrons. Puis elle implora le pardon d'Allah pour lui. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonna qu'on enterre Hamza. Il y a aussi le cas de Hamna bint Jahsh, dont nous avions parlé dans un cours précédent, qui a elle aussi perdu son frère, son oncle et son mari. On lui annonça d'abord la mort de son frère, Abdullah ibn Jahsh. Elle prononça l'istirja, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, puis implora le pardon d'Allah pour lui. Puis on lui annonça la mort de son oncle maternel, Hamza, ibn Abd al-Muttalib. Alors elle prononça là aussi l'istirja, et demanda le pardon d'Allah pour lui. Ensuite, on lui annonça la mort de son mari, Mus'ab ibn Umair. Alors elle cria et pleura. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « Le lien du mari avec son épouse est particulier. » En constatant la patience qu'elle manifesta à l'annonce de la mort de son frère et de son oncle, et l'intensité de son chagrin à l'annonce de la mort de son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses éloges quand même. Non. Cette narration a été rapportée par Ibn Majah, seulement la chaîne de transmission est faible. Quoi qu'il en soit, ces trois hommes furent tués durant cette bataille et qu'elle accepta le décret d'Allah. Seulement les détails de cela comme rapporté dans cette narration ne sont pas authentiques. Est-ce qu'elle a vraiment crié lorsqu'elle a entendu la mort de son mari? Cela n'est pas authentifié. Nous évoquerons, inshallah, tabarak wa ta'ala, dans les prochains cours, ce que va faire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après cette bataille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va partir à la poursuite des mécréants. Pour plusieurs raisons, que nous verrons, inshallah, tabarak wa ta'ala, dans un cours prochain. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه كما نسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته